Il est midi et demi sur France Culture. L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec une nouvelle défection programmée dans les rangs du gouvernement. Gérard Collomb annonce ce matin qu'il sera candidat à Lyon en 2020 et qu'il envisage de quitter son poste de ministre de l'Intérieur l'an prochain pour faire campagne avec Adrien Taufollet. Nous verrons combien cette échéance des municipales aiguise aujourd'hui les ambitions au sein de la République En Marche.
Une semaine après la présentation du plan pauvreté, Emmanuel Macron, lui, poursuit sa rentrée sociale en dévoilant ce matin sa réforme de la santé.
Oui, une réforme très attendue par les professionnels d'un secteur à bout de souffle, décryptage de toutes les mesures envisagées avec Tara Schlegel. Et puis nous serons également en ligne avec Claude Le Pen, économiste spécialiste des politiques de santé.
Enfin, toujours en France, c'est également aujourd'hui qu'a lieu la première réunion de négociation entre le patronat et les syndicats sur la future convention collective du ferroviaire.
La première d'une longue série de réunions où l'on parlera salaire, évidemment, mais pas seulement, nous dira Hakim Kasmi.
À l'étranger, direction la Chine, où la guerre commerciale avec les États-Unis semble de plus en plus marquée également dans votre édition, Thomas.
Oui, notamment après que Washington a annoncé de nouvelles taxes douanières sur quelques 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Nous irons également en Italie, où des divergences se font jour au sein de la coalition au pouvoir s'agissant du budget. Enfin, nous tâcherons d'évaluer la nature de l'accord conclu entre la Russie et la Turquie visant à créer une zone démilitarisée en Syrie pour séparer les forces gouvernementales et la rébellion dans la province d'Idlib. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il analyse l'irruption du capitalisme dans le socialisme et montre les dégâts qu'il peut faire sur cet espace commun, cette communauté humaine dans laquelle nous vivions jusqu'ici. Pourquoi le droit aujourd'hui régit tout, atomisant l'espace du commun en une multitude de revendications. Invité de la deuxième et dernière partie de la Grande Table, le philosophe Jean-Claude Michéa, à partir de 12h55.
Merci Olivier, à tout à l'heure. Le macronisme serait-il en train de se banaliser? Après Nicolas Hulot, après Laura Flessel, après Frédéric Dumas, voilà que Gérard Collomb annonce ce matin dans un entretien à l'Express qu'il envisage de quitter son poste dès l'an prochain, après les européennes, dans le but de faire campagne pour les municipales à Lyon en 2020. Alors en réalité, cette annonce est tout sauf une surprise, en particulier dans le landerneau politique lyonnais. Beaucoup de sources en effet pronostiquaient ce départ. Reste toutefois la question du calendrier qui, à bien des égards, étonne tant elle risque surtout d'ajouter de la confusion et de rentrer déjà bien agitée pour l'exécutif. Adrien Taufollet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pourquoi donc ce fidèle d'Emmanuel Macron, habituel relais discipliné de la parole élyséenne, a-t-il choisi d'annoncer son futur départ aujourd'hui?
Il est vrai qu'on peut penser que cette décision tombe particulièrement mal pour le chef de l'État. Cette rentrée de septembre est bel et bien placée sous le signe des défections en Macronie. Vous l'avez dit, les départs de Nicolas Hulot et Frédéric Dugas ont fait des dégâts dans l'opinion. Pour autant, celui de Gérard Collomb est-il vraiment une défection? Pas sûr. Il est vrai que le ministre de l'Intérieur a montré publiquement par deux fois cette année des désaccords avec le chef de l'État en mai dernier, quand Gérard Collomb, en réunion publique, refuse de donner son avis sur les 80 km/h. Et tout dernièrement, pour expliquer la baisse de popularité d'Emmanuel Macron, il évoque un manque d'humilité de l'exécutif, notamment sur l'affaire Benalla. Une remarque qui aura valu au numéro 2 du gouvernement un dîner d'explication avec le président, révèle Le Parisien ce matin. Mais de là à y voir une brouille, c'est oublié que Gérard Collomb est le fidèle parmi les fidèles, le premier soutien du candidat Macron en campagne, celui qui a versé une larme le jour de sa prise de pouvoir. Difficile de voir donc chez le ministre de l'Intérieur une volonté de frapper l'exécutif au pire moment.
Alors vous avez cité l'affaire Benalla, on pourrait également parler de la loi sur la sécurité intérieure ou de la loi immigration. Ce départ programmé d'un Gérard Collomb politiquement affaibli est-il une aubaine pour Emmanuel Macron? Ce qui semble davantage certain, Adrien, c'est que l'exécutif pourrait perdre plusieurs autres de ses ministres avant les prochaines municipales, tant l'échéance aiguise aujourd'hui les ambitions au sein de la République En Marche, ce qui d'ailleurs n'est pas nécessairement un mauvais calcul pour ce parti qui, de par sa nature, manque cruellement d'ancrage local.
Oui, et s'il quitte le gouvernement, Gérard Collomb, persona non grata au Parti Socialiste, pourrait très bien briguer Lyon sous la bannière LREM, une aubaine pour le parti présidentiel qui veut gagner les grandes mairies. À Paris, voilà des mois que la course a commencé officieusement avec Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi en embuscade. Et à Lyon, l'enjeu est de taille. À droite, Laurent Wauquiez prépare à lancer dans la course son lieutenant à la région, Étienne Blanc. Un peu plus à droite, Marion Maréchal, qui ne fait plus de politique, se sert tout de même de son école pour placer ses pions dans la vie. La bataille est lancée. et de leur côté, elle est déjà agressive, confie l'un des proches de Collomb à Lyon. Collomb est en politique locale, ce que Bocuse est à la gastronomie, ajoute-t-il. Localement, donc, il n'est pas affaibli. Et stratégiquement, pour lui, il est impératif de se lancer dès maintenant, à 1 an et demi du scrutin, montrer à son électorat qu'il est toujours là pour eux, et pas avec une ancienne équipe. 18 mois lui seront bien nécessaires pour former des forces vives et incarner ainsi, comme il se doit, le Nouveau Monde.
Merci Adrien Toffolet. Lui s'est fait sèchement rappeler à l'ordre par le chef de l'État. Lui, c'est Christophe Castaner, le délégué général du mouvement présidentiel qui vendredi dernier avait annoncé le lancement d'une réflexion sur une réforme de l'impôt sur les successions. Hier, Emmanuel Macron a exclu formellement une telle réforme pendant son quinquennat. Nous évoquions en tout début de ce journal les ambitions que nourrissent de plus en plus d'élus de La République En Marche. Depuis ce matin ont lieu les élections pour la présidence de leur groupe à l'Assemblée nationale. Ils étaient 8 à briguer la place laissée vacante par Richard Ferrand. Beaucoup notamment espéraient à cette occasion enfin voir une femme présider un groupe dans l'hémicycle. Eh bien, ce ne sera pas encore pour cette fois, puisqu'à l'issue du premier tour, les deux candidats qui sortent en tête sont deux hommes, Roland Lescure et Gilles Legendre. Alors même si depuis quelque temps le président Emmanuel Macron semble cantonné au rôle de l'urgentiste censé stopper les hémorragies, cela ne l'empêche pas pour autant de multiplier également les diagnostics et les ordonnances de traitement. Moins d'une semaine après le plan pauvreté, le chef de l'État présentait ce matin sa stratégie de transformation s'agissant du système de santé, une réforme baptisée Ma Santé 2022, dotée d'un budget de 3,4 milliards d'euros avec pour objectif de renforcer l'offre de soins. Alors avant de détailler les différentes mesures de ce plan, je vous propose d'écouter le président de la République pour qui le problème de fond ne viendrait pas d'un manque de financement, mais plutôt d'un handicap d'organisation.
Notre système de santé ne souffre pas d'abord d'un problème de sous-financement. Il pèse par un vrai handicap d'organisation. Le modèle d'organisation n'est plus adapté ni à la demande ni à l'offre de soins. La France, quand je regarde les chiffres, consacre aujourd'hui à ses dépenses de santé une part considérable de sa richesse nationale, à peu près 11,5% de son produit intérieur brut, ce qui nous situe au troisième rang des pays de l'OCDE. Il n'est pas question de faire moins, mais il n'est pas question non plus, par facilité, de dire « il suffirait de dépenser plus pour que tout aille mieux ». Ce serait faux. Le vieillissement, la demande légitime de notre population, les innovations, aussi bien en termes de médicaments que de dispositifs médicaux, créent de fait une dynamique de dépenses, et c'est donc bien par une réorganisation collective que nous pouvons répondre aux défis que j'évoquais. Soyons clairs. Si le budget global que nous consacrons à la santé est élevé, mais que tout le monde considère qu'il est insuffisant dans son quotidien, c'est définitivement que nos organisations de soins, nos modes d'allocation des ressources ne sont pas les bons.
Voilà, le président Emmanuel Macron, donc ce matin, à l'occasion de la présentation de ce plan. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à cette présentation par le chef de l'État. Quelle est la philosophie générale ?
Alors 1h10 de discours très applaudi ici à l'Élysée pour détailler le changement de paradigme qu'Emmanuel Macron veut impulser. Il ne s'agit pas simplement de dépenser plus, on vient de l'entendre, hein, la rallonge budgétaire existera, elle sera de 400 millions d'euros, mais dans un budget de 195 milliards annuels, ce n'est pas énorme. Il s'agit de mieux s'organiser, le chef de l'État vient de le dire, la France est le troisième pays qui dépense le plus pour sa santé. Or, le système est à bout de souffle et l'hôpital au bout de ce qu'il peut faire pour pallier la désorganisation. Il faut donc notamment que médecins hospitaliers et libéraux et généralistes se placent dans une approche de coopération radicalement nouvelle. Thomas, le chef de l'État, très volontariste, y croit.
Et puis si l'on rentre davantage cette fois-ci dans le détail de ce plan Tara, il comporte donc une cinquantaine de mesures au total et en particulier la suppression donc en 2020 de l'emblématique numerus clausus.
Oui, alors un plan, Thomas, qui s'articule autour de trois grands axes. D'abord, regagner du temps médical en formant, vous venez de le dire, plus de médecins. C'est la fin du numerus clausus. Et il s'agit également, pour le chef de l'État, pour aider les médecins généralistes et les médecins libéraux à regagner du temps médical, de les épauler en créant des postes d'assistants médicaux, 4000 emplois qui seront financés par l'État et qui pourront même monter en charge. Deuxième grand axe, mieux orienter le patient, construire un parcours de soins fluide, coordonné dont tout le monde rêve. C'est ici qu'intervient la révolution qui permettra aux généralistes et aux libéraux de s'organiser pour créer notamment des urgences de ville afin que dans chaque territoire, pendant la journée en particulier, on puisse, si possible, orienter un malade EHPAD ailleurs que vers un hôpital et ses urgences. Cette coordination se fera grâce aux nouveaux outils technologiques. Ils sont indispensables, a souligné Emmanuel Macron. Enfin, troisième grand axe de ce plan santé, réaffirmer la qualité des soins. C'est hypocrite de dire qu'ils sont égaux sur tout le territoire pour tout le monde. Le président de la République s'est élevé contre les passe-droits qui permettent aux plus influents de mieux se soigner. Le chef de l'État demande donc que les hôpitaux de proximité se concentrent sur ce qu'ils savent vraiment faire, de la gériatrie par exemple, et des soins de proximité, tandis que les hôpitaux de pointe s'attacheront à la médecine de pointe. Cette gradation sera synonyme de qualité, dit-il. Enfin, le système doit sortir du cercle vicieux de la tarification à l'activité, la T2A qui incite les hôpitaux à pratiquer toujours plus d'actes, parfois des actes inutiles. Désormais, un forfait va être créé pour prendre en charge notamment les malades chroniques, comme les diabétiques qui coûtent si cher à notre système de santé. Il constitue le grand défi de notre société vieillissante.
Merci Tara Schlegel et merci également à Jean-Marie Porcher pour les moyens techniques. Et toujours pour évoquer donc ce plan santé, invité de ce journal aujourd'hui, Claude Le Pen, économiste, spécialiste des politiques de santé. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et pour vous interroger avec moi en studio, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Une première question, monsieur Le Pen. Est-ce que le traitement préconisé ce matin par Emmanuel Macron vous semble le mieux adapté pour soigner un hôpital au bord de l'implosion, pour reprendre les mots du chef de l'État?
C'est un plan très ambitieux que le président a dessiné avec des échéances 2019-2020. Je note que c'est la première fois sous la Ve République qu'un président de la République traite de manière aussi exhaustive les problèmes de santé. Ça n'a jamais été le cas et ça prouve que c'est un engagement présidentiel fort. On aura besoin de cet engagement pour vaincre un petit peu les résistances, les corporatismes, les habitudes qui, depuis plusieurs années, s'opposent, disons, au changement. Il n'y a pas de mesure radicalement nouvelle. C'est-à-dire que tout ce que le président a annoncé, on le connaissait plus ou moins, beaucoup de rapports l'avaient dit, tout était dans les tuyaux, y compris le numerus clausus. Ça fait longtemps que on l'a déclaré non efficient et donc il prend un certain nombre, il tranche en gros, il a fait un choix parmi tout un ensemble de mesures, par exemple celle proposée par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sur les hôpitaux de proximité. Donc voilà, il met en musique, en forme, en donnant une direction stratégique à un constat qui est assez partagé par les milieux professionnels. Je note d'ailleurs que ce discours s'adresse peut-être plus aux professionnels de santé amenés à se réorganiser qu'aux Français pour lesquels, au fond, ce qu'on veut, c'est que pas grand-chose ne change, plutôt que ça s'améliore. Mais l'effort de réorganisation est plutôt demandé aux professionnels de santé.
Alors, un effort est demandé, vous le dites, mais, le président l'a bien répété, il n'y a pas de contraintes, jamais de contraintes. Est-ce que sans ces contraintes ou ces obligations, on va arriver à transformer notre système de santé comme il le demande?
Alors c'est un choix fort du président. Il a insisté assez lourdement sur l'idée que la contrainte était inefficace, que les médecins s'installeront pas si on les oblige à s'installer dans une région où ils veulent pas aller, ben s'installeront pas du tout. Il y a beaucoup d'emplois salariés. On manque de médecins en ce moment, hein. Pas simplement pour soigner les gens, mais aussi pour l'industrie, pour les administrations, pour les hôpitaux. Donc ils trouveront du travail où ils veulent en quelque sorte.
Alors comment faire pour les inciter, pour que à la fin il y ait des médecins là où on n'en trouve plus?
Alors je crois qu'il faut améliorer l'exercice médical qui aujourd'hui, et notamment l'exercice libéral, qui aujourd'hui est pénible. Alors la solution, c'est effectivement le regroupement des médecins. C'est une mesure importante qui a lieu dans beaucoup d'autres pays, c'est les assistants médicaux. Mm-hmm. C'est-à-dire donner aux médecins un environnement, un secrétariat médical qui puisse faire des mesures, qui puisse faire des actes, qui puisse faire un accueil, un interrogatoire du patient avant de le passer en quelque sorte aux médecins généraliste. C'est très courant en Angleterre. Par exemple, en Angleterre, c'est assez difficile de voir un médecin parce qu'il y a une équipe autour du médecin qui prépare en quelque sorte la consultation. Donner un peu plus d'argent, c'est prévu, rémunérer des parcours de soins sur deux pathologies, l'insuffisance rénale terminale et le diabète. Donc voilà. Et donner, disons, aux médecins libéraux qui sont en ce moment un peu qui ont des états d'âme, qui hésitent pour lequel l'installation est compliqué, qui s'installent de plus en plus tard dans leur vie, redonner le goût, en quelque sorte, du libéralisme, en ne se laissant pas en plus, non plus libéralisme au sens provisoire libéral, bien sûr, et en ne laissant pas en plus par cette muraille de fer des années 50 de la médecine hospitalière, en les ramenant, y compris en leur donnant un statut. à l'hôpital, que ce soit pas simplement des simples vacataires, mais qu'ils aient un vrai statut.
Donc c'est que c'est mixte. C'est cette philosophie macroniste de faire confiance aux acteurs. Une toute dernière question, est-ce qu'on sort pas finalement un tout petit peu, enfin de ce système qui était devenu central de la tarification à l'activité, est-ce qu'on en sort pas tout doucement?
On en sort doucement. Ça aussi, c'est une revendication qui n'est pas nouvelle, hein, qui a été portée par beaucoup de gens. C'était nécessaire d'instaurer la tarification à l'activité dans les années, il y a 10 ans ou 15 ans, parce que l'hôpital était sous-financé à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut redonner de la qualité et rémunérer, tarifer à la qualité autant qu'à la quantité. Donc, trouver une équation. Tout ça, ce sont de bonnes orientations. Le problème, ce sera de faire.
Bien.
On est aujourd'hui dans le président s'est donné à lui-même un défi. Bon, il faut qu'il le réussisse et ça sera difficile. Hein, ça sera difficile. C'est Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui reviendra la tâche de mettre tout ça en musique.
Très bien, merci Claude Le Pen, économiste spécialiste des politiques de santé, d'avoir été en direct avec nous et merci à Anne-Laure Chouin. Les syndicats de cheminots de la branche ferroviaire et le patronat du secteur se retrouvent aujourd'hui autour de la table des négociations. Au menu, la future convention collective nationale du rail qui devra être bouclée avant le 1er janvier 2020. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Quels sont les enjeux de ces négociations, les premières d'une longue série, puisqu'il y a, je crois, 8 rendez-vous au total qui porteront notamment sur les salaires, mais pas seulement.
Et oui, à l'ordre du jour, le salaire de base, vous l'avez dit, mais aussi la fin du statut de cheminots à partir du 1er janvier 2020 à la SNCF qui va rebattre les cartes. Pour les syndicats, il s'agira aussi d'éviter le dumping social, notamment par rapport aux concurrents de la SNCF privés comme Transdev et Keolis qui, de par leur statut et leur convention collective, peuvent proposer des prix plus bas et donc plus attractifs, ce qui n'est pas négligeable à l'heure de l'ouverture à la concurrence pour le trafic TER dès l'année prochaine. Du côté de la SNCF, on a bien conscience de la problématique, d'où la volonté de préparer ses employés à plus de flexibilité et de polyvalence, d'autant que patronats et syndicats ont recensé plus de 500 intitulés de métiers différents et donc beaucoup de doublons. Patrick Janté, le PDG des SNCF Réseau.
C'est pas forcément une question de durée de travail. Aujourd'hui, moi je pense plutôt à ce qu'on appelle la nomenclature des métiers. Hein, on en a 300, 400, 500. C'est-à-dire qu'on est très très figé dans un carcan qui empêche la polyvalence, par exemple. Voilà, la polyvalence, ça permet d'avoir plus d'économies, plus de performances économiques, mais ça permet aussi aux agents d'avoir des parcours de carrière beaucoup plus intéressants.
Le calendrier s'allonge donc serré, car le gouvernement a fixé jusqu'à l'été 2019 pour aboutir à des négociations.
Merci Hakim Kasmi. La province d'Idlib échappera-t-elle finalement au bain de sang auquel une offensive des forces du régime de Bachar el-Assad semblait l'avoir promise? Hier, Moscou a déclaré qu'il n'y aurait pas d'assaut. La Russie et la Turquie ayant accepté de créer une zone démilitarisée autour de la province tenue par les rebelles. Ce qui impliquerait donc un retrait non seulement de tous les combattants radicaux, mais aussi de toutes les armes appartenant aux différents groupes armés. Alors ce matin, le gouvernement syrien s'est félicité de cet accord tout en promettant de poursuivre sa guerre contre le terrorisme pour libérer, je cite, le pays tout entier. Quoi qu'il en soit, et en attendant, dans la province d'Idlib, c'est donc le soulagement qui prime ce matin, comme en témoigne ce reportage de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
People are relaxed now, optimistic.
Les gens se détendent, ils sont optimistes. Réaction de Bader, un civil réfugié à Idlib, contacté ce matin par les réseaux sociaux.
Some people have already started going back to their homes. It was too dangerous and they were afraid that a big attack will be soon.
Certains ont déjà commencé à repartir vers leur maison dans le sud de la province, maintenant que c'est moins dangereux, précise-t-il. Ces populations qui avaient fait le chemin inverse ces dernières semaines en remontant vers le nord, vers la frontière turque pour fuir la ligne de front et l'offensive massive du régime qui était attendue. Pas d'angélisme pour autant. Selon l'accord russo-turc, la zone démilitarisée ne verra pas le jour avant la mi-octobre et la question de la présence djihadiste est loin d'être réglée.
It's too early to judge. Some trouble is expected for sure.
C'est encore un peu tôt pour juger. Des troubles sont attendus, évidemment, mais la Turquie est assez solide pour faire appliquer l'accord, concède Bader. Ce matin, le régime de Damas a salué la création de cette zone tampon, mais il était en réalité le grand perdant, lui qui espérait reconquérir la dernière province rebelle. L'intérêt de son tuteur russe a primé. Moscou a trop besoin d'Ankara pour le succès de sa diplomatie, de son processus d'Astana. Trop besoin aussi des Occidentaux pour financer l'après-guerre, la reconstruction.
Même s'il n'est pas le seul baromètre de l'engagement humanitaire des États-Unis dans le monde, il témoigne d'une tendance générale. L'administration Trump vient de réduire pour l'an prochain et de manière drastique le plafond d'admission des réfugiés fixé à 30 000. C'est tout simplement le niveau historique le plus bas depuis que ce programme de réinstallation a été créé il y a près de 40 ans. Autre preuve de ce que la politique de Donald Trump n'est finalement pas aussi imprévisible que pourrait le laisser penser le caractère impulsif du président. Les États-Unis ont annoncé l'instauration à venir de nouvelles taxes douanières de 10% sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois. Cette dernière vague de droits douane doit entrer en vigueur au 24 septembre. Mais ça n'est pas tout puisque Donald Trump a également menacé d'imposer des droits de douane sur 267 milliards de dollars d'importation supplémentaires si la Chine ripostait contre les agriculteurs américains ou d'autres industries, ce qui signifie le cas échéant que la totalité en réalité des importations chinoises serait alors frappée de mesures protectionnistes américaines. Alors il se trouve que sur la côte est de la Chine s'est ouvert et pour 3 jours le forum économique mondial où les patrons chinois espèrent obtenir une réponse forte du régime de Pékin, sauf que la situation n'est pas si simple comme l'explique le professeur Ding Yuan, vice-président d'une prestigieuse école de business de Shanghai. Il répond à notre envoyé spécial au forum économique mondial, Dominique André.
Je crois qu'il y a un flottement, il y a un ajustement qui est un peu lié avec une mauvaise perception depuis 1 ou 2 ans en pensant que ça va se passer comme avant où les politiciens américains font le show, à la fin ce sera la même chose. Mais là ils ont réalisé que là, depuis le nouveau régime aux États-Unis, le ton a beaucoup changé, mais surtout le système de valeurs a changé.
Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le début de la guerre commerciale aujourd'hui ?
Là, oui. Il n'y a plus de possibilité de montrer la faiblesse ou la concession. Les sociétés américaines qui se trouvent en Chine auront des vies un peu plus difficiles. Ce que le plus dangereux pour la Chine, c'est une possibilité d'alliance entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. C'est quelque chose que les Chinois ne veulent pas voir. Mais pour ça, les Chinois devraient prendre des mesures un peu plus audacieuses pour ouvrir le marché, pour stopper les transferts de technologies, donc donner des accès un peu réciproques du marché. C'est ce que le président Macron a demandé aux Chinois quand il était là en janvier. La Chine peut se permettre d'avoir en guerre commerciale avec les Américains, mais pas avec tout le monde, ça c'est clair.
Parce que eux ont choisi le chemin de la réconciliation. Les deux présidents sud et nord-coréens se sont retrouvés à nouveau aujourd'hui à Pyongyang. 3e rencontre du genre, mais la première en 11 ans pour un dirigeant sud-coréen dans la capitale du Nord. Une visite de 3 jours cruciale pour Séoul qui veut relancer les pourparlers de dénucléarisation entre les États-Unis et la Corée du Nord. Des pourparlers aujourd'hui au point mort. Au moment où l'Italie essaye de se trouver un budget, les négociations sont âpres entre les deux alliés du gouvernement, la Ligue d'extrême droite d'un côté et le mouvement 5 étoiles de l'autre. Le projet de budget doit être présenté avant la mi-octobre à Bruxelles pour validation. Un budget en forme de véritable casse-tête. Pourquoi ? Parce que l'Italie est aujourd'hui le pays qui accuse la plus forte dette publique en Europe après la Grèce. Ce qui signifie que pour les deux partis au pouvoir, l'exercice d'équilibriste consiste à la fois à montrer patte blanche auprès de l'Europe, tout en essayant de respecter leurs engagements auprès de l'électorat. C'est une correspondance à Rome, signée Mathilde Imberti.
Les hommes forts du gouvernement se sont quittés hier soir sans avoir trouvé la solution. Au terme d'une réunion de 3 bonnes heures, tendue selon les comptes rendus qu'en fait la presse italienne ce matin. Autour de la table, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, respectivement pour les 5 étoiles et la Ligue, Giuseppe Conte, le président du Conseil, et le ministre de l'économie Giovanni Tria. Ce dernier, universitaire, en dehors des jeux des partis, entend contenir le déficit public en dessous des 2%, à 1,6% précisément du PIB selon ses dernières déclarations, ce qui impliquerait de trouver 10 millions d'euros de revenus supplémentaires. Un cadre inadapté aux exigences à la fois de la Ligue et des 5 étoiles. Le parti d'extrême droite de Matteo Salvini vise une baisse des impôts pour les petites entreprises dès 2019 et la révision de la réforme des retraites. Quant au mouvement 5 étoiles, il n'a pas l'intention de patienter pour mettre en place son revenu de citoyenneté, quasiment 800 euros par mois pour les Italiens les plus modestes, ce qui coûterait à l'État entre 8 et 10 millions d'euros. Le gouvernement devra avoir résolu le casse-tête budgétaire avant fin septembre pour le présenter au Parlement, tout en évitant la rupture entre ses différentes composantes. Viendra ensuite l'heure du test bruxellois. Le commissaire Pierre Moscovici a prévenu Rome. Son budget devra être crédible. L'Italie, avec une dette publique de 130%, représente un problème dans la zone euro, a-t-il déclaré sans prendre de pincettes.
On connaît désormais le nom du premier touriste qui devrait a priori voyager autour de la Lune grâce à la compagnie spatiale privée SpaceX. Yusaku Maezawa est un milliardaire japonais. Le prix du voyage, en revanche, n'a pas été dévoilé. Il se chiffrerait en dizaines de millions de dollars. Et puis surtout, la date de départ n'a pas été annoncée. Et pour cause, puisque la fusée n'est toujours pas construite. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Nuageux sur le nord du pays. Ces nuages s'accompagneront même parfois d'orages sur le centre, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine. Partout ailleurs, du soleil. Les températures, elles seront comprises entre 20 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.